terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ikuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 13 à 15 heures sur CIBL.
Mois de novembre au Canada veut dire mois de la littératie financière. Depuis 13 ans, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada a instauré ce mois comme le mois consacré à la littératie financière. Mais quand on dit littératie financière, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour nous éclairer là-dessus, je reçois Annick Wechogamo. Je rappelle rapidement, bonjour Annick,
c'est...
qui est spécialiste en éducation financière, coach financier et fondatrice de l'OBNL Code F Santé Financière pour tous et de la FinTech à impact social Code F Technologie Financière Inc. Annick est titulaire d'une maîtrise en management, d'un MBA en gestion internationale, d'une maîtrise en intelligence et transformation, est aussi certifiée ALMI, Associate Life Management Institute de l'OMA Québec, et a complété les cours Fonds d'investissement au Canada et commerce des valeurs mobilières au Canada de Canadian Securities Institute. Elle cumule près de 10 ans aujourd'hui d'expérience dans le domaine des services financiers. Tout d'abord dans l'administration des régimes d'épargne individuelle et collectif. Ensuite en gestion de patrimoine et de placement. Et maintenant en éducation financière et coaching financier. La question que je posais en off à Annick, je vais la lui reposer maintenant. Qu'est-ce qui a bien pu t'attirer dans les finances?
En fait, c'est vraiment le jeu du hasard. Parce que, comme tu l'as dit, dans mon profil, j'ai fait des études en gestion internationale et notamment mon MBA. Et quand j'étais à Québec, parce que je l'ai fait à l'Université Laval, on me disait « Oh, si tu veux travailler en gestion internationale, va à Montréal ou Toronto. Okay. » Mais moi, j'aime beaucoup Québec. Mmh. Donc, j'ai voulu rester à Québec.
Et Québec... Oui, en passant, c'est une fille de Québec.
qui est venue spécialement pour vous. Et Québec est connu comme étant la ville des assurances, avec les grands groupes, les grandes institutions financières du domaine des assurances. Et donc, du coup, mon premier emploi a été pour une institution financière où j'ai commencé en travaillant pour tout ce qui était administration des régimes d'épargne individuelle.
Mmh. Je vais poser une question qui peut paraître paradoxale, tant on sait que l'entrepreneuriat aujourd'hui est quelque chose qu'on pousse au maximum et notamment dans les communautés néo-québécoises, là, on pousse les gens à être à entreprendre. Mm-hmm. Mais la question que je vais te poser, c'est quand on voit ton profil, je me serais attendu à recevoir ou le jour où j'ai fait la connaissance d'Annick, d'apprendre qu'elle est dans telle institution avec le gros, tu sais, le gros nom, assise quelque part, gestionnaire de patrimoine ou des choses comme ça. Mm-hmm. Tu as choisi de laisser tomber ça pour aller dans l'entrepreneuriat qu'on sait très risqué. Pourquoi?
Oui, parce que en fait, ce que j'aspirais à faire en tant que tel, donc l'éducation financière des citoyens et la littératie financière, c'était vraiment des opportunités de travail qui m'étaient offertes dans les firmes dans lesquelles j'ai évolué. Oui, des institutions financières vont avoir des départements d'éducation financière, mais c'est une éducation financière qui tourne beaucoup autour des produits qu'elles mettent en place dans les entreprises ou bien qu'elles offrent aux citoyens, mais pas vraiment d'éducation financière impartialisée. Et quand je travaille donc pour les firmes dans lesquelles je travaille, j'ai pu faire beaucoup de constats, notamment au fait que il y avait vraiment des cas de lacunes, de carences en littératie financière de beaucoup de populations, notamment des jeunes, des femmes et des nouveaux arrivants, trois catégories de population à laquelle j'appartiens. Donc, je me suis dit, il y a vraiment de quoi à faire. Surtout que moi, en fait, à force d'expliquer à mon entourage c'est quoi un REER, c'est quoi le régime d'accession à la propriété, c'est quoi le dossier de crédit, comment ça marche le crédit au Canada, etc. Et ça, j'ai vraiment développé un goût pour la transmission de connaissances, pour l'explication. Et fait donc du sens que je crée donc mon entreprise en éducation financière parce que je ne pouvais pas vraiment le faire en tant qu'employé.
Code F est né en 2019.
Oui.
Et tu as utilisé deux mots. Et je pense que ça va déterminer beaucoup de choses. Tu as parlé d'éducation financière et de littératie financière.
Oui.
On est transparent. Moi, le mot. D'abord, l'éducation financière. Pourquoi faut-il faire de l'éducation financière?
Ben en fait, c'est qu'on est dans un monde où, en perpétuelle évolution, ça on le sait, mais surtout le monde des services financiers est en grande évolution. Il y a une diversité énorme en termes de produits financiers et même de personnes qui peuvent nous accompagner par rapport à ça. On parle beaucoup notamment de conseil financier, mais conseil financier, c'est un terme généralisé qui implique beaucoup de personnes. du conseiller bancaire au conseiller en placement. Okay? Il y a une myriade de rôles qui sont comme inclus dans le rôle de conseiller financier. Et si on veut que les citoyens soient équipés pour faire, pour comprendre cet univers-là et faire des choix éclairés et responsables dans cet univers-là, il est important qu'ils soient éduqués et qu'ils soient outillés aussi.
Mmh. Le mot littératie financière, éducation financière et tout, je le dis de manière très honnête, n'est pas, il n'y a pas longtemps que j'en ai entendu parler. Mmh. Et je me suis dit, avant d'écouter ta réponse, j'essaie de me formuler moi-même la réponse. Je me dis, est-ce que c'est parce que quand on dit littératie, quand on parle finance, mm-hmm. on entend argent mm-hmm. et que le rapport parfois qu'on a avec l'argent est un rapport pas très sain? Est-ce que c'est ça qui fait que ce soit encore, je dirais quoi, tabou d'une certaine façon?
Ben, en fait, dans ce que tu dis, en fait, il y a plusieurs choses qui seraient à souligner. Mm-hmm. Premièrement, en fait, le fait que l'éducation financière...
Prends une par une et puis éclaire-nous là-dessus.
Le fait que l'éducation financière, ce soit un thème qui soit de plus en plus entendu, vulgarisé, mais est encore nouveau, c'est nouveau dans la sphère publique. Parce que, justement, l'éducation par rapport à l'argent était plus réputée du domaine familial. Oui, donc c'était notamment nos parents, papa, maman, qui nous apprenaient comment faire pour gérer notre argent dans ce qu'on appelle notre éducation à la vie adulte. Mmh. Okay? Puis je sais qu'au Québec, pendant un temps, il y avait ce qu'on appelle les cours d'économie familiale. Justement, on apprenait justement à gérer un budget familial, etc. Donc, c'était un peu dans ce cadre-là qu'on apprenait justement l'éducation financière. Mais de plus en plus, vu qu'on voit qu'il y a un enjeu par rapport au stress financier des citoyens, voire même de l'anxiété financière des citoyens, je pense que les décideurs publics se saisissent beaucoup plus de cet enjeu-là et commence à parler donc plus de littératie financière pour justement mettre en place des mesures et surtout inciter les citoyens à ce qu'ils aillent chercher les ressources, outils dont ils ont besoin pour faire des choix financiers éclairés et responsables. Mmh.
Je rassure celles et ceux qui nous écoutent. On va parler de code F. Ça, je les rassure là. Mais je veux vraiment profiter de ta présence pour aborder certains aspects. Tu as dit deux mots qui font peur. Je vais le dire honnêtement. Stress financier, anxiété financière.
Oui.
C'est pas des mots généralement qui vont ensemble.
Définitivement. Puis en fait, stress financier, c'est vraiment un néologisme. Donc, l'amalgame de deux termes. Stress et finance. Et si on prend par exemple la définition de l'Association canadienne de la santé mentale, un stress, c'est quoi? C'est une réaction du corps face à une menace réelle ou perçue. Réaction du corps qui peut être physique ou émotive, ok? Et c'est une raison du corps pour nous pousser à prendre action pour éclater le danger réel ou perçu. Mmh. Et depuis au moins 2016, voire même un peu avant, il y a des études qui démontrent que l'argent est la source de stress numéro un des Québécois, des Canadiens, ok?
Numéro un.
Et donc, du coup, c'est la cause principale de ce qui génère ce stress-là. Et de plus en plus, justement, on commence à parler d'anxiété financière parce que c'est la perspective, l'anticipation des difficultés financières à venir qui fait qu'on va avoir un stress, donc cette réaction du corps-là. C'est là qu'on parle d'anxiété financière. Mais c'est quelque chose qui est de plus en plus récurrent. Je pense que si vous ouvrez les journaux, peu importe que ce soit La Presse, Le Devoir, Le Soleil, Journal de Montréal, etc., non seulement ils ont tous une section finance personnelle, le journal des affaires y compris, et quand on voit les titres, on voit beaucoup de titres sur le surendettement des ménages, le stress financier, l'anxiété financière, le manque de connaissances, etc., etc. Tous ces éléments qui font qu'en fait, il y a vraiment un signal d'alarme à tirer, en fait. Mmh. Et c'est quelque chose qui est persistant, minimalement, voire grandissant.
C'est pour ça que tu as parlé, quand on discutait, tu as parlé de fléau.
Oui, c'est un fléau. C'est vraiment un fléau que moi, justement, un de mes devoirs que je me donne en tout temps avec Côte-Ève, mais aussi surtout pendant le moment de la littérature financière, c'est de faire de la sensibilisation auprès des entreprises, notamment auprès des décideurs publics, sur dire c'est un fléau, un enjeu de société, OK? Et il faut qu'on on prenne action. Juste quelques chiffres, OK? Au Canada, il n'y a pas vraiment de données sur l'impact négatif du manque de littératie financière ou du stress financier sur les populations.
Okay.
Les seules données qu'il va y avoir, c'est par rapport à cet impact-là sur les entreprises. Okay? En octobre 2023,
il y a à peine quelques jours,
l'Institut national de la paye qui s'appelait avant l'Association canadienne de la paie, disait que le stress financier des travailleurs coûtait en moyenne 45 milliards de dollars canadiens aux entreprises canadiennes en termes de perte de productivité. Parce que quand quelqu'un est stressé financièrement, il prend du temps de travail pour pouvoir gérer ses problèmes financiers au travail et au lieu de travailler. OK? Une autre donnée, et ça, c'est, j'avais lu un article dans le journal La Presse le week-end dernier avec Chantal Amoureux, qui est la directrice générale de l'Institut québécois de planification financière, qui montrait des données des États-Unis, OK, où il démontrait que le manque de littératie financière de la population a coûté en 2022 436 milliards de dollars US. OK? Le manque de littératie, à peu près à 1800 dollars US par personne.
C'est énorme.
436. Il n'y a pas que de données de ces gens-là au Québec, Canada, au Canada, mais nos voisins du Sud, qui sont quand même un peu nos voisins pour une raison, c'est quand même énorme. Donc, on comprend que ce stress financier-là, ce fléau-là, est un enjeu de société. Centre du Grand Montréal sortait son rapport sur l'indice de l'anxiété financière 2023. 85% des Québécois disent ressentir de l'anxiété financière à différents niveaux. 85%. Donc, si on ne prend pas action là, expliquez-moi qu'il y a quelque chose qui ne marche pas.
Mais comment on... C'est fou parce que tu donnes ces chiffres. Alors, je reviens ici chez nous. Centre dit 85, c'est ça? Hein,
oui, 85%.
Des Québécois. Mais qu'est-ce qui fait qu'on continue à s'endetter? Est-ce que ça veut dire que les... littératiens financiers comme toi ne font pas assez leur travail?
Ben, le problème, c'est que premièrement, on n'est pas assez nombreux.
Okay. Donc, c'est nouveau.
En fait, des coachs financiers au Québec, on n'est pas tant que ça. Au Québec, en termes d'accompagnement financier des citoyens, il peut y avoir les conseils budgétaires des ASEF, les associations coopératives d'économie familiale. Il y en a un peu partout. À Montréal, je connais notamment la CEF de l'Est de Montréal, il y a la CEF du Nord de Montréal, qui font des rencontres avec les citoyens pour les aider justement en termes de consultation budgétaire. Comment faire un budget, comment le respecter, etc., etc. Puis qu'est-ce qu'on peut faire en cas de surendettement? Autre. Parfois, les ASEF font des formations pour des groupes communautaires, etc., etc. Mais il n'y a pas assez de monde dans ces ASEF-là pour couvrir tout le monde dans le besoin. Okay? Code F, on est une structure, mais on est quand même encore une petite structure. Oui, on a un réseau de formateurs, mais vu qu'on est un organisme qui n'est pas financé à la mission, on est une entreprise d'économie sociale, on doit faire payer pour nos services. Donc, du coup, ça crée une barrière, un frein. Même les entreprises à qui on essaie de dire, genre, offrez nos formations à vos employés vont dire, surtout quand l'économie est un peu chancelante, vont dire, moi, j'ai pas forcément les moyens pour payer pour ça. Et aussi, la question de qui a le devoir d'offrir cette éducation financière-là? Est-ce le rôle de l'État, des entreprises, des organismes? Qui, en fait?
Dans ce que tu viens de dire, je laisse sa question là en l'air là pour que chacun réponde, mais tu as dit une chose. Coach, formateur.
Oui.
Tu as dit, on n'a pas assez de coach financier.
La notion de coach financier, c'est vraiment un terme qui est peu connu.
Personnellement, j'en connais comme ça, mais on voit souvent des coachs de vie. Ils vous disent comment manger, comment développement personnel. J'ai rien contre, il y en a beaucoup. Voilà, c'est peut-être parce que je ne sais pas exactement ce qu'ils font, mais disons que c'est pas une image très
valorisante.
Voilà, c'est ça.
Puis même quand je parle à des organismes régulateurs comme l'AMF, etc., ils disent coaching ou on n'aime pas ça parce que justement c'est très, l'image n'est pas très belle. Ouais. Mais ce que moi je dis, c'est que, en fait, je suis comme un conseil budgétaire de la CEF. Mais sauf que je vais beaucoup plus loin qu'un conseil budgétaire dans le sens où nous, des coachs financiers, on va aider les individus à faire une évaluation de leur situation financière.
Okay.
Mettre en place un plan d'action pour améliorer ou bien optimiser leur situation financière et offrir un suivi. Donc, c'est un peu, on va prendre certaines techniques liées au coaching, mais surtout à la psychologie, ce qu'on appelle la psychologie motivationnelle. Comment est-ce que je fais pour t'intéresser à tes finances, pour te montrer qu'il faut que tu prennes action et te guider, t'engager, te motiver et te guider en fait dans ce que je fais, dans ce que tu fais pour avoir justement cette bonne santé financière-là. Donc, c'est seulement ça qu'on fait. Et on ne va pas être des conseillers financiers parce qu'on ne vend pas de produits financiers. Okay? On n'est pas non plus des planificateurs financiers parce qu'il y a des actes qui sont réservés à la profession de planificateurs financiers que nous, on ne pose pas. Pour donner en fait une image beaucoup plus imagée, en fait, claire de ce qu'on fait, et la spécificité du rôle de coach, c'est l'assimilation avec le domaine de la santé. Okay? En fait, à côté, on parle beaucoup de santé financière pour tous, mais on fait beaucoup de parallèles avec le monde de la santé. Dans le système de santé au Québec, tu vas avoir le rôle d'infirmier ou d'infirmière, de médecin généraliste ou médecin de famille et de médecin spécialiste.
Vous êtes la première ligne.
Nous, on est la première ligne. Mm-hmm. On est l'équivalent de l'infirmier et l'infirmière. Donc, on va pouvoir t'aider à faire une évaluation de ta situation. On peut te faire des prescriptions, mais il y a des actes réservés à la présence de médecins que l'on ne peut pas poser. Les actes en question, c'est le fait de se faire un plan financier selon ce qu'on appelle les 7 champs de la planification financière, dans les aspects légaux, fiscaux, la retraite, les placements, etc., etc., que seul un planificateur financier peut faire. Okay? Mm-hmm. Parce qu'un planificateur financier qui est inscrit auprès de l'Institut québécois de planification financière, ou bien on ne peut pas non plus te faire de vente de produits, que ça, seules les personnes qui ont un permis de vente de produits, que ce soit des assurances vie ou bien des fonds communs placement, etc., dans un permis qui est inscrit auprès de l'AMF, Autorité des marchés financiers, mm-hmm. peuvent faire. Et donc, dans cet exemple-là, ben, en fait, nous, comme je dis, les coachs sont des infirmiers et infirmières. Les médecins généralistes, c'est l'équivalent des planificateurs financiers qui ont cette vue 360 degrés-là de tes finances. Et les médecins spécialistes, ce seraient les conseillers en sécurité financière, ce seraient les notaires, les comptables fiscaux, etc., qui ont des permis particuliers pour te vendre ou bien faire certaines prestations.
Une dernière question avant qu'on parle des activités de Code F durant ce mois de la littératie financière. Qu'est-ce que la coach, je vais aller avec ça, que mm-hmm. tu es, de par son expérience, qu'est-ce qu'elle dit aux gens qui ne viennent pas, qui ont du mal à ouvrir, je dirais, leur livre de peur d'être jugé?
Ben en fait, la première chose
parce
que je dis,
c'est vraiment une
c'est un frein.
Ouais.
Oui, mais parce qu'en fait, beaucoup de gens en fait, se jugent eux-mêmes. Et donc, du coup, on a crainte qu'on va les juger. Parce que
vous jugez un peu quand même, Annick.
Non, je ne juge pas. Moi, je dis à mes clients que si tu m'arrives avec une situation que ce soit de l'endettement, etc., c'est des décisions que tu as prises par le passé. On va arrêter de s'auto-flageller pour les décisions qu'on a prises, qui étaient bonnes, pas bonnes. Ça, ce n'est pas la question. La question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller de l'avant? Soit pour, premièrement, améliorer la situation et parfois l'optimiser. J'ai des gens qui, oui, viennent nous voir parce qu'ils ont une situation financière qui est vraiment dans le trou. Il y en a qui viennent nous voir parce qu'ils veulent une situation financière qui va bien, mais qui veulent justement voir comment la fine-tuner. Donc, on a vraiment tous les cas. Et non, je ne juge pas. Moi, je dis aux gens, je suis un humain comme tout le monde. Okay? Avant 2012, j'étais une simple citoyenne. Je faisais mon MBA international, je m'en allais vers du marketing international, etc. Je n'étais pas coach financier, je n'étais pas dans le domaine des services financiers. Mm-hmm. Donc, du coup, j'ai fait des erreurs, comme tout le monde. Et j'ai appris de mes erreurs. Et comme je dis, c'est que ce qui s'est fait dans le passé, il faut qu'on arrête de se flageller. C'est fait, OK? Mais comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Et comme dit beaucoup de gens, parce qu'en fait, actuellement, en fait, dans la société dans laquelle on est, où on veut toujours bien paraître, beaucoup de gens vont associer leur difficulté financière à un problème d'estime de soi. Qui suis-je si je ne sais pas gérer mon budget? Qui suis-je si j'ai des difficultés financières dans un monde où les gens affichent tous les jours les voitures qu'ils achètent, des voyages qu'ils font, les restaurants dans lesquels ils vont visiter, etc. Donc, qui affichent que tout va bien, même si on sait que c'est juste de la surface. Mmh.
Important ce que tu viens de dire, parce que tu as parlé à un moment donné du levier psychologique
oui.
qui fait en sorte que, bon, comme je dis, la relation avec l'argent, mauvais gestionnaire, tout ça lié. Puis on se dit, non, je ne veux pas les voir parce qu'ils vont tout de suite porter un jugement sur qui je suis.
Bah, c'est ça. Puis c'est ça qui fait qu'on entre dans comme une politique de l'autruche. De dire, bah, justement, j'ai des problèmes financiers, je ne veux pas gérer ça parce que j'ai peur, je suis gênée, j'ai honte, etc. Donc, du coup, je ne regarde pas ça. Je mets la tête dans le sable, mais sûr que pendant que je ne regarde pas ça, mes problèmes empirent. OK? Et justement, c'est la notion aussi, comme tu parlais de motivation, bien de psychologie, qu'il faut vraiment regarder. Aujourd'hui, quand on parle d'éducation financière, on met beaucoup l'emphase sur l'aspect éducation. Donc, à savoir c'est quoi un taux d'intérêt, savoir combien font 1 plus 1 égale, etc. OK? Sauf que dans la littératie financière, il y a trois aspects. Il y a les connaissances, la compétence qui sont couvertes par l'éducation. Mais le troisième volet, c'est la confiance en soi. Est-ce que je me sens assez apte à prendre des décisions financières éclairées et responsables? Est-ce que j'ai confiance en mes capacités? Est-ce que j'ai confiance en ma capacité à aller chercher de l'aide dont j'ai besoin? Okay? Et beaucoup de fois, on ne s'attaque pas à ce troisième volet-là qui est important. Est-ce que j'ai la foi en mes capacités à me sortir de ma situation dans laquelle je suis? Mmh. Et beaucoup de gens, en fait, parce qu'ils se disent que même s'ils allaient chercher l'aide, ils seraient anyway pas capables, parce qu'ils ne se sentent pas capables, n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes ou de leur capacité, ne vont pas chercher de l'aide en question.
Donc, connaissance, compétence, confiance.
Oui.
Là, durant ce mois, vous avez déjà commencé, parce que vous avez commencé dès le 1er novembre. On a parlé de médecins, parce qu'on a fait l'analogie avec la santé. Mm-hmm. Bah, on parle aussi de santé financière, voilà. Oh. C'est pas très loin. Vous présentez aux gens justement ce qu'est un médecin généraliste des finances,
oui.
Ce qu'on appelle, que vous appelez le planificateur financier. Ça,
oui.
C'est une des actions que vous faites dans quelques jours. Là, c'est le 9 novembre.
Oui, hein,
okay.
C'est ça. On fait le 9 novembre prochain une web diffusion sur...
Le porte-monnaie ouvert.
Ah oui,
oui
ça.
C'est ça. C'est
à porte-monnaie ouvert.
Donc
là,
ouvert.
On a un planificateur financier, Fabrice Famini. On va voir Chantal Lamoureux, la directrice générale de l'Institut québécois de planification financière qui va être là. On a aussi un journaliste, Charles Poulain, journaliste finance personnelle des affaires, qui va être là avec moi. On va animer une discussion sur le rôle justement de planificateur financier, qui est un rôle qui n'est pas connu.
Okay.
Pas vraiment connu. Et parce que beaucoup de gens me disent que, en général, un planificateur financier, c'est quelqu'un qui aide les riches. Être plus riche.
Okay. Okay.
Et donc, du coup, beaucoup de gens vont se dire, je n'ai pas les moyens d'aller voir un planificateur financier. Non, ils ne vont pas chercher à comprendre c'est quoi le rôle de ce planificateur financier-là, qui est quand même un rôle assez crucial pour nos finances. Okay? Donc, du coup, on fait cette discussion-là le 9 novembre pour mettre un peu la table, expliquer c'est quoi l'importance du planificateur financier et c'est quoi aussi l'impact très positif qu'il peut avoir par rapport à nos finances. Ça, c'est pour préparer la table à ce qu'on va faire le 18 novembre, donc une clinique de planification financière, où là, on a recruté des planificateurs financiers qui viennent rencontrer pendant une heure des personnes qui n'ont pas accès en temps normal à des planificateurs financiers.
OK. Ah oui,
et donc, c'est des rencontres individuelles. Oui. En fait, c'est comme si on fait justement, encore l'analogie avec la santé, on fait une clinique, venez rencontrer un médecin généraliste pendant une heure, posez-lui des questions. C'est sûr qu'il ne pourra pas faire un plan en bonne et due forme, un plan financier en bonne et due forme, parce qu'en une heure, c'est beaucoup trop juste, mais au moins, il pourra vous donner des réponses et c'est des planificateurs financiers. Encore une fois, inscrits auprès de l'Institut québécois de planification financière, donc du coup, qui sont certifiés et qui sont des sources fiables d'informations.
Et puis, il y a donc le défi, le fameux défi qui a sa troisième édition.
Oui.
Mon budget pour le temps des fêtes.
Oui, définitivement.
Ça fait un peu le fun, quoi. Comme quoi, le mois, c'est pas juste des choses où on vous dit, voilà comment... On ne voit pas le geste, mais où on vous dit, voilà, suivez la leçon, en fait.
Oui, mais c'est ça. Mais surtout, en fait, c'est de dire, en fait, on sait que décembre arrive, on sait qu'on va dépenser de l'argent, c'est un fait. C'est normal, il faut se faire plaisir, ok? Mais beaucoup de gens entrent dans le temps des fêtes sans planifier les dépenses qu'ils vont faire. Pour se retrouver en janvier, à avoir ce que j'appelle la gueule de bois du lendemain des fêtes. Et surtout quand la facture de la carte de crédit arrive, on se dit, aïe aïe, j'ai trop dépensé, qu'est-ce que j'ai fait? Ok? Et quand on parle avec des syndics en instabilité, ceux qui aident à faire des faillites, beaucoup de cas de faillite tombe en janvier-février, parce que les gens reçoivent des cartes de crédit puis se disent « j'ai trop dépensé, aïe aïe ». Donc du coup, on a dit aux gens, on sait qu'on dépense, on ne vous dit pas de dépenser, mais on dit « planifiez au moins vos dépenses ». Okay? Et donc on donne des outils, on donne notamment un guide pour faire ce défi-là, on donne des conseils, j'ai trouvé des capsules pour engager les gens à comment donner des outils, comment faire un budget qui vous ressemble. Et si... Vous prenez le goût de faire un budget pour ce temps-là et que vous décidez de le continuer par après, nous, on est contents.
Le silence, c'est parce que tout ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire que je le prends, puis je suis sûr que celles et ceux qui nous écoutent aussi pareil, je veux qu'on finisse avec comment va... Tu as donné quelques chiffres, mais j'ai envie de dire ça. Comment va le Québec financièrement?
Donc, la population québécoise.
Oui.
D'après les données que j'ai eues, notamment demain, lundi, il va y avoir dans le journal La Presse avec Stéphanie Bérubé un article sur l'endettement des ménages. Ça ne va pas très bien.
OK.
L'endettement augmente. En même temps, dans le contexte actuel où on entend justement, encore une fois, des forts taux d'intérêt, le haut du coût de la vie, est-ce que les gens sont forcément sereins quant à leur capacité à faire face à leurs dépenses et obligations financières actuelles ou futures, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que si Centrée du Grand Montréal refaisait un sondage sur l'indice d'anxiété financière, actuellement, je pense que ce serait en hausse encore.
Je dis dernière question, c'est une petite série. Si je me fais le porte-parole, grosso modo, un peu ce que je suis de certaines personnes, aller voir Annie Kouetchegamo pour parler de finances, c'est à la fin s'entendre dire « Ah, vous allez devoir mener une vie austère. »
Ah, absolument pas. Absolument pas. Là, on va encore prendre des assimilations, là. Okay. Mais moi, je dis, par exemple, aux gens, c'est comme quand tu vas voir un nutritionniste qui te fait un régime alimentaire. S'il n'y a pas une zone pour des plaisirs, là, tu ne vas jamais tenir ton régime alimentaire. Même chose quand on vient voir par un coach financier pour avoir un plan pour restructurer sa gestion financière. Moi, je dis, ayez toujours un jardin des plaisirs. Donc, identifiez un montant que vous allez allouer à des choses qui vous font du bien et de la valeur qui vont sourire, en fait. Parce que s'il n'y a pas ça, l'austérité, là, c'est bien beau, mais ça va durer quoi? Une semaine, un mois, après, on va déraper, et pas à peu près. OK? Donc, dans l'accompagnement qu'on fait, on essaie de donner place au plaisir. Il faut se faire plaisir. Si on prend la définition de la bonne santé financière, du bien-être financier, selon l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, c'est quoi? C'est la capacité de pouvoir faire face à ses obligations financières actuelles, la confiance en sa capacité à pouvoir faire face à ses obligations financières futures, tout en se laissant une marge de manœuvre pour pouvoir profiter de l'instant présent. Parce que demain n'est garanti à personne. Et moi encore, puisque j'aime beaucoup les images, puis on me connaît pour mes images, moi j'aime dire c'est l'équivalent, en fait c'est vraiment l'équivalent d'être un peu cigale, un peu fourmi, selon la fable de La Fontaine. Dans le sens où oui, on prépare demain, mais on essaie de profiter de l'instant présent parce que demain n'est garanti à personne. Demain peut être très long, parce qu'on vit au Canada et puis l'espérance de vie peut être très très longue, donc il faut bien le planifier, mais ça peut s'arrêter tout d'un coup.
Vous ne voyez pas mon invité, mais je vous dis, elle le dit avec une telle passion dans le regard. la passion, vous l'entendez. Tu aimes ça?
J'adore ça.
Ça se voit, ça se sent.
Honnêtement, parfois quand on dit qu'on gère une entreprise d'économie sociale ou bien dans l'économie sociale, on fait comme vœu de sacerdoce un peu. Mais ma meilleure rémunération, c'est de l'impact que je crée chez les personnes. Que ce soit quand je fais des ateliers, parce que je donne encore des ateliers, même si je travaille à faire grandir Côte F, je prends le temps d'aller faire des ateliers, de rencontrer des personnes en coaching, puis l'impact, il est là. Puis il y a des personnes qu'en 3-4 séances, enfin 5 séances de coaching, ils sont prêts à aller de l'avance, avancer de eux-mêmes, mais des gens que j'accompagne après 20 séances, puis parce que ça dépend de où est-ce qu'on part. Mais quand j'ai des clients qui me disent que grâce à toi, je commence à avoir du plaisir à m'occuper de mes finances, là, ouais. C'est la plus belle rémunération qui puisse exister. Et c'est ça que moi, je veux à la fin faire, en fait.
Vous comprenez pourquoi la dame fait partie justement de la dernière cohorte, si je ne me trompe pas, d'Excellence Québec.
Oui.
et c'est justement pour ce qu'elle fait, cet impact qu'elle apporte depuis 2019, hein, même s'il y a eu la COVID qui est venue changer deux, trois choses. Mais si vous voulez en savoir plus au-delà du site, là particulièrement avec le mois de la littératie pardon, financière, c'est le site mlf.com. codef.ca, c'est
exactement,
ça, hein?
Oui.
mlf.codef.ca, okay. Et vous saurez tout sur l'éducation, surtout éducation financière, accompagnement financier, parce que ça ne s'arrête pas qu'au mois de novembre, tout le long de l'année, il y a des choses.
Il y a de quoi. Et puis, juste pour avoir l'information générale sur codef, c'est www.codef.ca.
Tellement facile.
Oui.
codef.ca, mlf.codef.ca. Bref, vous avez toutes les informations. Allez sur codef.ca, c'est plus facile. Et puis, ça va vous diriger vers toutes les autres pages. Merci beaucoup, Annie Kouetchegamo, d'être venue nous parler. Puis, j'espère que au sortir de ce que les gens viennent d'entendre, là, il y aura deux, trois personnes qui vont t'appeler puis te dire « J'ai besoin de l'infirmière en chef
». Il n'y a pas de problème, on est vraiment là pour aider, puis surtout, en fait, garder à l'esprit, c'est important, on n'est pas là pour vous juger. Nous sommes des êtres humains comme vous, c'est juste que nous, on a développé une expertise dans l'accompagnement financier, les services financiers, mais on est des êtres humains à la base. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas de honte, et surtout, arrêtez de vous juger vous-même et de vous flageller pour des erreurs passées. Le passé, c'est le passé, maintenant, c'est pour penser à l'avenir.
Voilà la première leçon de littératie financière que vous avez dans cette entrevue à Néo-Québec. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Mon nom est Cyril Equala.